l'attroupement se dut fils. Mais aussi Bernardone chérissait-il cet étrange canard qu'il avait mis au monde. Que se passait-il à Assise? En deuil de tant de ses enfants, elle se remettait difficilement de ses blessures. Derrière ses fortifications imposantes, il ne lui restait que peu de monde pour la défendre. Et que pouvait-elle faire d'autre sinon se plier aux exigences de sa rivale victorieuse, la commune de Pérouse? Commune, mais papale? À vrai dire, les conditions de paix n'étaient pas déraisonnables. Il s'agissait de dédommager les seigneurs qui s'étaient réfugiés à Pérouse et dont les demeures avaient été saccagées et détruites. Payer et reconstruire, tel était le programme. Assise était riche, et elle obtempéra non sans grincer des dents. En retour, les seigneurs dédommagés acceptaient le gouvernement communal et s'engageaient à ne plus porter leurs différends éventuels devant l'adversaire ancestral. Quels échos de tout cela parvenaient aux oreilles de François? Il apprenait que peu à peu, Assise se repeuplait. Comme lui, elle revenait à la santé. Il pouvait se croire guéri, et l'heure vint où la maladie propice aux songeries spirituelles finit par lâcher prise, pour un temps au moins. Le corps affaibli, libéré de tout désir, avait permis à l'âme de s'exprimer à son tour, et les exigences de l'âme peuvent être plus dures encore que celles des sens. Mais avec les forces qui croissaient de jour en jour, renaissait un monde aux séductions ensorcelantes. Comment, dans son lit de maladie, François avait-il pu oublier la splendeur de la création, au point de la méconnaître lors de sa première sortie? Cela ressemblait à un blasphème. L'obsession de la beauté sous toutes ses formes retrouvait son empire sur cet être aussi singulièrement accordé à la joie qu'à la souffrance. De nouveau, il se jeta dans les rues de sa ville un peu comme on reprend possession d'une citadelle reconquise. La paix régnait, précaire, humilié, mais le bonheur redevenait possible et François pouvait se remettre à chanter. Des amis échappés au massacre de Collestrada accoururent vers celui qu'ils pensaient avoir perdu. Le François d'avant la défaite faisait tout oublier d'une année tragique. Comme après toute guerre, un sursaut d'allégresse s'emparait des jeunes hommes tout prêts à mordre à la vie ainsi qu'au plus beau jour. Dans l'ordre à peu près rétabli, pouvait renaître enfin le charmant désordre des nuits, puisque le roi de la jeunesse était là avec ses chansons, ses éclats de rire et son argent. Lui aussi avait faim de plaisir. Sa phrase malencontreuse sur le saint futur s'effaçait de toutes les mémoires. Même de celle de François? La fête allait-elle reprendre? Elle reprit. Dans son langage emphatique, Celano nous dit que François n'avait pas encore secoué le joug de son criminel esclavage. De la guerre avec Pérouse et de la captivité du jeune homme, pas un mot. Sa maladie, selon le chroniqueur, était un effet de la grâce de Dieu pour ramener dans le droit chemin celui qui s'avançait, magnifique et la tête haute, à travers les grandes places de Babylone. Le vice, ajoute-t-il sobrement, finit par vous être une seconde nature. Voilà qui est net. Écoutons cependant la voix de Bonaventure de Bagnoregio, qui n'a jamais connu François, et qui, 35 ans après sa mort, nous assure que jamais il ne se laissa entraîner par la fougue des passions. Au feu donc tous les témoignages antérieurs qui nous disent le contraire. Et il est de fait qu'en 1263, on fit un holocauste d'une masse de fâcheux documents. Et c'est ainsi que se confectionne un saint de plâtre. Que ne prête-t-on l'oreille à ce que disait le saint lui-même dans d'invraisemblables crises de larmes? Je vivais dans le péché. Et plus tard, avec cette causticité qui ne le quitta jamais, ne me canonisez pas trop tôt, je suis parfaitement capable de faire des enfants. Mort à 46 ans, il ne devait se convertir qu'à 25. Il fit bien attendre Dieu qui ne l'en aima pas moins. Et je ne dis pas que nous ne l'en aimons que plus, mais, pécheur, le voilà près de nous. Sans péché, où est la conversion? Etiam peccata, felix culpa. Ce que les libertins les plus effrénés reprochent au plaisir, c'est sa monotonie. Et s'ils ont pratiqué Lucrèce, ce quelque chose d'amer qui s'élève des sources de volupté.